Bon, je crois que quand même nous allons commencer l'étude. Je ne sais pas ce qui se passe avec le frère Koulibaly. Alors,
Il va nous prendre peut-être qu'il va nous prendre en route.
en route, c'est ça, c'est sûr. Donc, l'idée que le Seigneur m'a donnée, c'est de traverser les épîtres de Paul à Timothée et puis à Tite en vue de nous former davantage, non seulement dans la parole, mais aussi dans la diligence, surtout si le Seigneur nous place quelque part où il n'y a pas d'autres témoignages de l'évangile de Christ que qui nous donne quand même la parole de pouvoir parler aux autres, même si ce n'est pas dans la fonction de pasteur. Tu sais que ce titre est abusé vraiment aujourd'hui. En fait, c'est une fonction, ce n'est pas un titre. Et c'est de cette manière que je dirige ma vie. Parce que beaucoup me regardent et ils disent que tu es pasteur, comme si c'était un titre. Mais quand on pense à l'étymologie du mot, ça signifie simplement un berger, un sous-berger, surtout. Nous savons que Christ est le seul pasteur de ses brebis. Nous qui sommes là en train d'enseigner la parole, nous ne faisons que paître les troupeaux que le Seigneur nous donne. Et je dis souvent que même si c'est une seule brebis qu'il nous donne, puisque c'est la brebis du roi, des rois, donc nous allons nous occuper de cette brebis comme si c'était, enfin, même s'il n'y a pas une centaine comme le monde cherche. Alors, je crois que les épîtres de Paul à Timothée nous donnent cette instruction nécessaire et nous savons que Paul lui-même était non seulement un apôtre, mais évangéliste, un prédicateur de l'évangile. Alors, je crois que nous avons beaucoup à apprendre de ces épîtres-là. Je vais commencer par la prière et puis ensuite demander au Seigneur de bénir ce temps ensemble. Et au cours de... C'est un enseignement, donc si le Seigneur donne aussi quelques pensées, on pourrait en parler. Je n'ai pas l'idée de prêcher en tant que tel, mais enfin, c'est comme une classe, un cours de formation, donc que le Seigneur dirige nos pensées, nos paroles. Bon, prions. Seigneur, je te remercie que tu ordonnes toutes choses en ton temps et je prie que tu daignes bénir ces moments que nous passons ensemble dans ces études en français et toutes choses ont un début selon ta volonté et la manière que ça peut croître. Nous demandons, Seigneur, ta direction là, afin que toute la gloire revienne à toi et non pas à nous. Alors, garde nos pensées, nos cœurs, et je te prie, Seigneur, de me donner les paroles, mais aussi ceux qui écoutent, afin que ton esprit dirige cette parole à nos cœurs. Nous sommes vraiment dans le besoin d'une parole qui vient de toi. Et pour cela, je demande ton aide et ta direction. Et c'est dans le saint nom de notre Saint Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Alors, dans la première épître de Paul à Timothée, je vais simplement commencer avec les deux premiers versets où Paul dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors nous savons que Timothée n'était pas l'enfant physique de l'apôtre Paul, mais Paul lui écrit en tant qu'enfant, il dit ici, légitime en la foi. Nous savons que la foi vient de Dieu, mais le Seigneur se sert des hommes qu'il suscite lui-même comme instrument pour témoigner de cette grâce. Et par là, l'Esprit agit la Bible utilise l'illustration de la naissance, la nouvelle naissance, de faire naître spirituellement ceux que le Père a choisi et pour qui Christ est mort et entend l'Esprit attire. Alors, c'est de nous rappeler que vraiment, cette œuvre de salut, c'est une œuvre de Dieu du début jusqu'à la fin. Alors, Paul rappelle Timothée de cela. Tu sais, quand je cause avec des gens qui se disent chrétiens, c'est la première des choses que j'arrive à leur demander, c'est de savoir comment ils sont devenus chrétiens. Parce que même ce mot chrétien est utilisé partout dans le monde. C'est populaire aujourd'hui, dans certains milieux, d'être chrétien. Et c'est du cœur que la bouche parle. Donc, en écoutant la réponse, on peut tout de suite savoir si réellement c'est un chrétien, comme Paul dit ici, légitime. Est-ce que c'est un enfant légitime de la foi ou en la foi? Et tu vois la suite, que la grâce et la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Ça, c'est la seule manière pour quelqu'un de s'appeler chrétien. C'est par la grâce, la miséricorde et la paix qui sont données de la part de Dieu le Père. Et quand tu vois le mot « et », c'est aussi, on peut traduire ça même de Jésus-Christ notre Seigneur. Parce que tout ce que le Père fait, il fait à travers son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce que le Seigneur Jésus-Christ accomplit, il fait pour la gloire de son Père. Donc il y a cette union parfaite qui est depuis l'éternité. Et surtout quand Christ était sur la terre, c'est le Père qui l'a envoyé. Et tout ce qu'il faisait, c'était pour accomplir cette justice que Dieu le Père demandait, exigeait, afin que Dieu soit juste tout en justifiant ce que Christ a racheté. Alors, dans ces petits mots, dans l'introduction qu'on passe souvent dessus pour arriver au contenu plus loin, il faut qu'on s'arrête quand même pour voir la base de tout ce que Dieu fait. Et que aujourd'hui, plus que jamais, et nous rencontrons ces difficultés toujours, parce qu'il y a dans tous les lieux des gens qui se disent chrétiens. Il y a des lieux de culte, il y a des endroits où les gens se rassemblent pour ces réunions. Mais quand on entre, on s'assoit et on commence à écouter, quelque chose ne sonne pas bien dans le cœur, dans les oreilles. Plus qu'on entend, plus qu'on pose des questions, plus on voit que ce qu'ils appellent chrétien n'est pas dans le sens de la Bible. Je connais un peu la situation de chacun de vous, mais je voudrais m'arrêter là un peu pour que, si le Saint dirige, vous parlez un peu de vos situations là où vous êtes. Je connais déjà la situation du frère Mathieu, mais Amédée en France, qu'est-ce que tu as trouvé jusque là?
Oui, moi en France déjà, quand je suis arrivé en France, en fait c'était pas facile. Et puis je venais vraiment d'une situation où quand j'étais aussi à Gagnoa, il y a un moment après ton départ, je m'étais vraiment éloigné aussi de l'évangile. Et ça, c'est comme ça, ça a duré au moins plus d'une dizaine d'années. Et quand je suis arrivé en France, c'est pas le Seigneur a vraiment, dans la situation où je suis en France, où c'est pas l'Afrique, où c'est un pays qui est développé, il y a ses réalités, ses difficultés, tout ça. Mais comme ça, j'ai eu vraiment l'envie de reprendre. Et quand j'étais parmi mes compatriotes, tout ça, je voyais autour de moi que les gens, la plupart, étaient vraiment religieux, au fond du moins, et j'étais vraiment culpabilisé. Je me disais, moi, tu as connu l'évangile, tu as laissé tomber l'évangile depuis près d'une dizaine d'années, et je viens en France, je vois que les gens, moi, mais ils sont dans la religion. Et c'est comme ça que j'ai commencé à reprendre contact avec Jean-Claude Soulot, et qui m'a dit que véritablement en France, on ne peut pas trouver l'évangile comme quand le prêchait à Gagnon, à tout ça. Mais il y a moins un frère qui est à l'église, qui est à la maison de la Bible à Saint-Michel, à Paris, il s'appelle Thomas. À cette époque-là, il me l'a confié. Et Thomas Constantini, lui aussi, il avait un autre, il y avait Marc Maïlin et Nico Raffaelli. Lui, Marc Maïlin, lui, c'est un blanc américain, et puis avec son mari, Nicolas Farelli, avec son qui est américaine. Donc, on se réunissait à la place de la recherche sur les Maïlin, voilà. Mais il semblerait que, en fait, Thomas Constantini, qui était à la maison de la Bible, il prêchait l'évangile de la grâce. Et c'est Jean-Claude Sulot qui me l'a confié. Et lui, il s'est associé avec Farelli et Maïlin. Donc on était au moins 5-6 et il y a des frères qui venaient s'ajouter à nous. Mais à un moment donné, eux aussi, il y a un groupe qui prêchait l'évangile de la grâce, qui était par Thomas Constantini. Et après, le Marc Maïlin, on a compris qu'eux, ils prêchaient l'évangile, mais qui était centré sur le libre arbitre. Voilà, donc eux aussi se sont séparés. Je me suis retrouvé comme ça seul et j'ai appelé Thomas Constantini, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait plus la réunion? Et lui aussi me dit, ah non, votre histoire de calviniste là, laissez-moi, je suis tranquille, mais c'est tout s'éloigner de ça, parce que les gens là-même, ils ne prêchent pas l'évangile, mais moi aussi, laissez-moi tranquille, et lui aussi, il est parti. Donc, du coup, moi, je me suis attaché au Marc Maïlin. Eux, ils m'ont orienté, maintenant, chez un autre Américain qui prêchait, il disait qu'il prêchait l'évangile, qui était baptiste évangile, qui s'appelle Kevin, ouais, ça fait, Kevin, c'est son nom, comment est-ce que c'est Kevin, mais... Ouais, Steve Barr, pardon, à Saint-Denis, dans la région parisienne, en Île-de-France. Il avait l'église baptiste. Alors, donc, le constat, c'est qu'au fur et à mesure que j'étais assis, j'ai compris aussi que lui aussi, il prêchait le libre-arbitre, mais ce n'était pas l'évangile de la grâce. Or, moi, ce que je voulais, c'était ça. Et là, quand j'ai rencontré mon meilleur ami, dans une religion comme Abidjan, elle m'a suivi, et on est allé dans l'église baptiste. Et au fur et à mesure, on constate que ce n'est pas ça. Alors, moi, j'ai appelé Jean-Claude. Attends, moi, je vais reprendre avec l'Europresse. J'ai commencé à reprendre. Et au fur et à mesure, cela, j'ai constaté effectivement que ce soit Steve Barr, dans la région de province où nous sommes arrivés. On a déménagé à Saint-Denis. Il nous a confié aussi à Jean-Claude Bianco. Bianco. Lui aussi, c'est Bianco, là, lui, c'est la même chose. Donc, finalement, je me suis assis et j'ai compris que mieux vaut suivre les cours avec l'Europresse. De rester en contact avec elle aux États-Unis pour l'évangile et de rester tranquille et de prier. Et que si le Seigneur m'a fait grâce et que j'ai renoué avec l'évangile et que je me suis repenti pour venir dans la véritable repentance et la foi en Christ, je dois rester tranquille maintenant et puis suivre le véritable et ne plus me disperser tout. Donc, il fait que moi, je suis là avec ma famille, pas dans un lieu de culte, continue de suivre et je suis en contact avec l'Europresse et puis en même temps aussi qu'elle est avec elle. Donc, en gros, ma situation aujourd'hui, voilà où elle est. Où elle est. Voilà. Donc, je suis content que vous ayez Ken qui nous prêche fidèlement. Je pense que ce moment que nous sommes en train de faire sur Skype, ce serait un moment de grâce pour nous encore.
Et c'est bien. C'est bien.
Voilà, aujourd'hui, moi, voilà où je suis. Voilà.
Je sais que c'est la nature des brebis de s'éloigner. Même quand on voit les brebis, ils ont besoin d'un berger. Mais ce que nous savons, c'est que ceux que le Seigneur lui-même appelle et qu'il a racheté, il ne peut pas aller loin, parce que c'est lui le berger, et la voix d'un étranger, ils ne vont pas écouter, mais ils vont suivre Christ. Je sais, Daniel, ta situation aussi au Canada, c'est sans doute la même, non?
Oui, en effet, on avait perdu contact pendant plusieurs années, et... J'étais sur le point de joindre une église, Gerard's Church, et c'est là que j'ai pris contact avec toi. J'étais en train de faire les cours pour devenir membre, et j'avais même pris un cours de théologie avec eux, puisqu'ils ont un institut qui donnait un cours en français à ce moment-là. Et mon raisonnement, en effet, comme tu dis, les brebis ont tendance à s'éloigner, mais le berger les ramène. Mon raisonnement, c'était, bon, avec du jeune fils, j'ai quelques problèmes, et c'est bien un encadrement. On va aller, au moins on chante des cantiques à la gloire de Dieu, on étudie la Bible, mais il y a toujours quelque chose. Et dans cette théologie, on croit aux doctrines, mais détruit avec la sanctification. Et je n'avais pas réalisé le blasphème. jusqu'à ce que je reprenne contact avec Ken, que je me mette à l'écoute de le vrai évangile, le seul évangile.
Mm-hmm.
Et voilà.
C'est ça.
C'est ça les églises. Il y en a plusieurs comme ça. Le sujet de prière, c'est que Samuel aussi a joué ça à Sainte-Catherine. Et c'est tellement... Ça paraît bien, ça paraît vraiment bien. La doctrine est bien prêchée, mais ils ne prêchent pas parce que ils vont faire une application à la fin du message pour ramener ça à Christ. Et ils blasphèment en donnant l'illusion qu'il y a quelque chose qui permet de progresser.
Ouais. Et je crois que c'est là l'erreur, parce que c'est comme le levain. On ne voit pas le vin dans le pain, mais ça agit quand même. Et il y a beaucoup de messages qui sont prêchés sous le nom de l'évangile et qui sont même proches aux doctrines. Mais en fin de compte, on sent que il y a une condition toujours prêchée où l'homme est la clé. Et c'est ce que l'homme, en fin de compte, fournit qui décide l'affaire. Et ça, c'est la chair. C'est là l'erreur. Quelqu'un a dit une fois, pour tuer un rat, le poison, et peut-être 99% rit, mais c'est le petit poison dedans qui tue le rat. Et c'est comme ça dans l'évangile. Enfin, le faux évangile. Et bon, c'est Matthieu aussi, on a eu cette... enfin, je ne sais pas si on a causé, mais on était en train de texter. Parce que où il va, à New Jersey, je lui ai demandé la situation là-bas. Bon, il a parlé d'une église baptiste qu'on appelle réformée. Alors, j'ai dû hier quand même lui dire les points au moins où... il doit peut-être pouvoir faire attention, mais Mathieu, tu écoutes déjà un pasteur là-bas. Quelle est ton expérience? Parce que tu as fait un petit séjour à Shreveport, bon, tu es parti en Californie, Atlanta, maintenant New Jersey. Qu'est-ce que tu trouves dans ce domaine?
Bon, disons qu'après Shreveport, les écoutes en ligne, en famille. Bon, en Californie, j'ai rencontré le docteur Downey, qui a une église, la grâce souveraine, qui baptise la grâce souveraine de Dieu en Californie. Donc, j'ai fréquenté l'église quelques mois. Bon, il était professeur de théologie aussi. Avant, il y a eu séparation. Donc, il y a un groupe qui est parti parce que bon, ils s'entendaient pas sur la musique d'adoration, la musique moderne, genre rock, par les hymnes, le piano, son monde, voilà. Donc on chante les cantiques et tout ça. Bon, du point de vue de la même doctrine, en fait, du salut, la sanctification, la justification et tout ça, puis des livres. Alors, je continue toujours d'écouter ces sermons, ces sermons audio. Et puis, bon, il prêche le salut par grâce. Bon, j'ai pas trouvé de prêche que le frère Ken, peut-être que, comme Daniel dit, bon, il passe beaucoup de temps à expliquer les doctrines. Son point central, en fait, il croit qu'on doit toujours, étudier les 10 commandements, parce que les 10 commandements permettent de mieux comprendre la grâce de Dieu. Donc, il prêche beaucoup sur les 10 commandements, mais pas dans le sens où on doit faire du légalisme. Mais c'est pour qu'on sache un peu quelle faveur Dieu nous a fait, quoi Dieu nous a tiré, tout ça. Puis, bon, c'est pour l'éducation sur la rédemption, la sanctification. C'est les mêmes points. On est en Christ, on a sauvé une fois, puis... bon, bien sûr, le Seigneur, il nous transforme par sa parole. Plus on écoute, plus on se rapproche, plus on en... Donc, bon, la justification, il explique comme étant donc l'acte de Dieu qui nous déclare sans que nous soyons saints, purs et tout ça. Mais c'est un décret légal qui nous... Donc, en fait, en termes de... Donc, pas beaucoup de différence. Donc, quand j'ai quitté la Californie, en Géorgie, j'ai brièvement fréquenté une église... mais bon, c'était une thé, et puis c'était familial. Bon, tous c'était les pères, le fils et tout ça. La réunion, c'était une réunion de famille, beaucoup d'enseignement. Donc, je suis parti. Donc, je continue à écouter l'évangile en ligne. Donc, au New Jersey, j'ai cherché un peu en ligne une autre église, la grâce souveraine de Dieu. Mais je me suis rendu compte qu'en termes de musique, la musique moderne, la musique rock, moi, c'est pas vraiment... Bon, chacun c'est assez pour moi. C'est ça qui m'a freiné et qui a fait plutôt tourner vers les baptistes réformés. Hein. Bon, je ne sais pas, que j'ai lu un petit quelques sermons du pasteur, bon, il semble un peu plus conservateur.
Mm-hmm.
Mais bon, donc c'est surtout mes lectures, mes prières et aussi d'autres personnes dont on me donne la réflexion. Je suis toujours en communication avec le pasteur de Calife. En échange, on parle, son dernier livre qui est paru, bon, je lis et je lui pose des questions. Je dis un peu la différence de ce que Frère Ken aurait prêché et puis bon, voilà, donc on discute. C'est ça.
D'accord. Enfin, c'est bien de savoir la situation des uns des autres. Et ce qui est sûr, c'est le Seigneur qui nous enseigne par son esprit, notre autorité finale en toutes choses, c'est la parole. Et nous devons être comme les gens de Béret qui étudient, même face à la prédication de l'apôtre Paul, ils étudiaient les Écritures pour savoir si ces choses étaient vraies. Je trouve ça vraiment drôle parce que c'était l'apôtre Paul. Mais néanmoins, c'était l'Esprit de Dieu en eux qui les poussait à vérifier toutes choses. Et c'est, je crois, ce discernement qui est nécessaire. Je dois dire moi-même, quand je retourne en arrière et je rencontre quelqu'un qui me dit qu'il y a 20 ans, 25 ans, qu'il m'écoutait prêcher et il soulève des points, je crains un peu ce qu'ils vont dire parce que je vois que moi-même, la croissance, il y a eu pas mal de croissance depuis 20 ans, 30 ans. Alors, j'espère que nous sommes en train de croître tous les jours en étudiant la Bible et en vous écoutant. Bon, on a mentionné les termes calviniste ou théologie, doctrine. Tu sais, ce qu'il nous faut, c'est un vocabulaire biblique. Et je trouve souvent, quand on sort des termes de la Bible pour aller sur le terrain des théologiens ou bien des docteurs ou même des dénominations, c'est là où l'erreur commence. Parce que même de la manière que j'ai débuté ici en lisant cette introduction de l'épître de Paul à Timothée dans les deux premiers versets, on ne voit pas les mots, on ne voit pas le mot calviniste. Calvin n'était même pas encore né. Quand quelqu'un me dit, bon, je suis calviniste, je dis, bon, mais l'évangile de Dieu n'est pas après l'homme. Donc, dès qu'on dit calviniste ou quoi que ce soit, même Ken, c'est ce que je crains souvent, ce n'est pas l'évangile de Ken, mais l'évangile de Christ. Et je crois que même ça, c'est important. Je ne suis qu'un instrument, une voix, la bouche par laquelle Dieu enseigne d'autres, mais en fait, c'est l'évangile de Christ et notre doctrine. Tu sais, dans la Bible, le mot, en ce qui concerne la vraie doctrine, c'est toujours au singulier. On ne voit jamais les doctrines de la grâce, comme certains en parlent. Prends la concordance et fais la suite de ce mot, c'est toujours au singulier. C'est exclusivement la doctrine, pas de Calvin, pas de Paul, mais de Christ. Et comme Jean a écrit dans sa troisième épître, si quelqu'un vient qui n'a pas cette doctrine de Christ, de ne le recevoir même pas. Et il ne faut même pas offrir d'aider avec ses dépenses dans ses voyages, etc. Parce qu'en faisant cela, c'est d'aider un faux professeur, prédicateur. Donc, nous devons avoir le discernement, mais ce que je veux que nous voyons, même selon l'exemple de Paul ici, à Timothée, il y a des termes qui sont bibliques. Et aussi longtemps que nous restons sur ces termes, nous pouvons arriver à la vérité. Par exemple, si tu vois ces deux premiers versets, « Que signifie le mot apôtre? Est-ce que ça, c'est un mot important aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup aussi qui se disent apôtres. Et tu vois, de Jésus-Christ, ce n'est pas de telle ou telle dénomination, mais de Jésus-Christ. Les dénominations telles que nous avons aujourd'hui n'existaient pas à l'époque, dans le temps de l'apôtre Paul. Je disais ça récemment dans un message, qu'en réalité, quand tu lis les Écritures, il n'y avait jamais dans un seul lieu, c'est-à-dire dans une certaine ville, plus qu'une seule vraie assemblée. Quand je suis arrivé à Shreveport, il y a maintenant 20 ans, j'ai rencontré pas mal d'assemblées qui se nomment calvinistes. Et même les prédicateurs de ces assemblées se sont rapprochés de moi. Une fois qu'ils ont appris ce que je prêchais, ils m'invitaient à leur petite réunion pour avoir un peu de fellowship. Mais quand je suis allé m'asseoir, j'ai vu que le point principal pour eux n'était pas de prêcher Christ et Christ crucifié. Ils aimaient parler autour d'une tasse de café, des doctrines, etc. Mais dans leur assemblée même, c'était le mélange. Alors tu sais bien, si tu as une voiture que tu mélanges un peu d'essence et d'eau, ça va bloquer le moteur. Et c'est ça même le point pour moi. On n'avait pas vraiment une fondation qui était... on n'avait rien en commun. Même si il disait, il faisait la profession de prêcher l'évangile, mais il y avait une grande différence. Alors, jusque-là, et je ne dis pas de cela dans un point d'orgueil, mais s'il y a une autre assemblée à Shreveport où l'évangile de Christ est prêché, autre que Shreveport Grace Church, où je suis le dirigeant ici, je dis à notre assemblée, il n'y a aucune raison de se réunir à part. Si vraiment il y a deux assemblées ou trois assemblées dans une telle ville qui prêche vraiment cet évangile, donc on doit se joindre. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le cas. Comme vous avez déjà constaté, tu sais, l'erreur qui est la plus difficile à discerner, c'est l'erreur qui est plus proche à la vérité. Le diable ne s'habille pas en habillement rouge comme on voit les gens dessiner avec des cornes et une queue et il se déplace. Non, il est dans les assemblées, il utilise, nous savons ça, dans cette tentation avec Christ, quand il s'est rapproché de notre Seigneur pour le tenter, il utilisait la parole. Mais le Seigneur l'a réfuté à chaque point, puisque c'était la manière qu'il interprétait qui était fausse. Et c'est pour ça que nous avons besoin de beaucoup de discernement. Il parle ici de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu. Il y en a qui ne veulent même pas qu'on parle de l'élection ou du dessein de Dieu, de la prédestination. Mais ce sont des termes bibliques. Quand il dit ici « par ordre de Dieu », c'est un terme militaire. C'est le commandant qui donne l'ordre à ses soldats. Et c'est de cette manière que Paul voit son état en écrivant à Timothée. Il ne se réfère jamais, il ne prend jamais les titres comme des hommes prennent aujourd'hui, docteur. Moi, je me méfie quand je vois quelqu'un qui met le titre docteur, à part d'être un médecin, ou maître, ou apôtre dans le sens d'un titre. Paul n'utilise pas ici comme titre. C'est pourquoi dans la Bible ici, ce n'est pas avec majuscule, en minuscule, apôtre. Le mot signifie quelqu'un qui est envoyé de Jésus-Christ. Alors, mais c'est par ordre de Dieu. Je suis en contact avec Koudou Justin. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de Gayo. Mais quand je suis arrivé à Gayo en 1980, ça fait longtemps, je ne connaissais personne. Mais c'est le receveur de la poste qui m'a reçu. Il était à l'époque un homme religieux, je dirais. Le Saint lui a donné un intérêt pour étudier la Bible. Alors, il m'a reçu. Et c'est à partir de là que l'œuvre a débuté à Gayo dans sa maison. Mais il avait un petit-fils, un fils qui était petit à l'époque. Je crois que Justin avait peut-être 4 ans, 3 ans, 4 ans. Et puis, il était transféré, le receveur. Alors, je suis resté en contact. Mais dans ces derniers temps, il a repris contact avec moi sur Facebook. Et ce petit garçon n'est plus petit. Il est aujourd'hui l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire à Danemark. Mais quand on s'écrit, il me parle de cet évangile, quoiqu'il était très petit quand j'étais là, mais cet évangile que son père a appris de moi, et je dirais qu'il a appris de Dieu, et qu'il a parlé à son fils, que maintenant, lui, étant au Danemark, c'est cet évangile qu'il a toujours à cœur. Mais le point, c'est que il est ambassadeur de la Côte d'Ivoire dans ce pays-là, mais il n'est pas le président. Il ne peut pas agir comme il veut. Il représente un pays, il représente un président. Et ça, c'est le sens de ce que Paul est en train de dire ici. Tout ce qu'il est en train d'écrire, tout ce que nous voyons ici, n'est pas de l'imagination de Paul, mais il est apôtre de Jésus-Christ, un envoyé de Jésus-Christ, l'ambassadeur de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, et il dit là, notre sauveur, même de Jésus-Christ, notre espérance. Tu sais, aujourd'hui, comme je disais, les hommes aiment les titres, mais même de la manière qu'ils parlent de Dieu et de Jésus-Christ, je trouve que ça dévoile beaucoup de ce qui est dans leur cœur. Parce que c'est avec respect que Paul s'adresse à Dieu et qu'il parle de Dieu. C'est pas comme aujourd'hui, on voit des gens parler de Jésus. Ils utilisent même les termes comme si c'était un copain. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Non, ici, c'est l'apôtre de Jésus Christ, par ordre de Dieu, et tu vois, ce n'est pas dans un sens général, notre sauveur. Quand il dit notre sauveur, il est en train d'écrire à Timothée, Dieu n'est pas le sauveur de tous les hommes comme c'est prêché dans l'évangile moderne. On parlait tout à l'heure de la musique contemporaine, mais il y a un évangile, ce n'est pas que c'est l'évangile, mais il y a un autre évangile qui est prêché, qui n'est pas celui de la Bible. Et c'est populaire. Mais quand Paul dit ici, et encore, on doit étudier toutes choses dans son contexte, notre sauveur, il y a un sauveur qui est particulier à ceux qui sont, comme il dit dans le verset 2, les enfants légitimes en la foi. Ça, c'est important. Alors, quand j'entends quelqu'un parler de Dieu, j'écoute pour savoir si c'est mon Dieu. Quand il parle de son sauveur, j'écoute pour savoir si c'est mon sauveur. Parce que il y a une différence. Et je dois dire que nous sommes unis, non pas par une dénomination. C'est pourquoi notre assemblée ici s'appelle Shreveport Grace Church. Et je ne peux pas te dire combien de fois les gens me disent, donc c'est quel genre de dénomination, Shreveport Grace Church. Bon, le mot dénomination, c'est dans le mot, on a le mot nom. C'est un titre, c'est un nom que nous avons pris pour nous identifier et nous distinguer, si vous voulez, des autres. Ce n'est pas que j'ai honte du terme baptiste. Enfin, je crois au baptême dans l'eau. Mais Shreveport, ça signifie la ville où nous réunissons. Grace, la grâce de Dieu. Ça explique tout. La grâce. Et church. Church, c'est le mot Église signifie ceux qui sont appelés dehors. C'est Dieu qui les appelle, donc qui sont rassemblés au nom de Dieu même, de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, notre espérance. Alors ça donne une occasion d'expliquer la doctrine de Christ sans toutefois être attaché à une organisation. Et c'est quelque chose que ceux qui sont dans les organisations religieuses ne peuvent pas comprendre. Ils veulent savoir, ben, c'est baptiste, c'est méthodiste, c'est pentecôtiste, quel genre d'église. Et je réponds toujours, j'espère que c'est l'église de Christ. Sinon, peu importe la dénomination, si ce n'est pas l'église de Christ, donc c'est une fausse église. Alors, je ne peux pas insister assez sur ce point que notre doctrine doit être celle de la Bible. C'est pourquoi, quand je prêche, je prends la Bible et je prêche de livre en livre, je prêche verset par verset. Même ça, j'ai des inquiétudes quand je vois des prédicateurs choisir des sujets. Parce que souvent, quand ils font cela, cela veut dire que c'est un point sur lequel ils veulent insister. Et vous le savez comme moi, on peut prendre cette parole et prêcher n'importe quoi. En demandant aux gens de regarder ici, prendre un verset ici, un verset là. Mais ce n'est pas comme ça que nous lisons même un roman ou bien un texte à l'école. On commence au début et on lit jusqu'à la fin. C'est là qu'on voit les choses dans leur contexte. Alors c'est pourquoi je voudrais faire cette étude à travers ces épîtres. Je ne veux pas seulement prendre un sujet qu'aujourd'hui on va étudier le mot évêque, par exemple, ou bien on va étudier le terme église, ou bien aujourd'hui on va prêcher sur le rôle de la femme dans l'église. Bon, chaque fois qu'on prend un sujet en dehors du contexte de la Bible, c'est là que on commence déjà à s'éloigner. Donc tout ce que nous voyons doit sortir de ces écritures, parce que ces écritures sont inspirées. Souvent on dit que c'est Paul qui était inspiré. Non, c'était un homme pécheur comme tout le monde. Mais Dieu a inspiré sa parole de sorte que, qu'en écrivant ces mots, nous pouvons avoir l'assurance que c'est la parole de Dieu et non pas la parole de Paul. Et en fin de compte, c'est cette parole que le Seigneur utilise pour convertir les âmes. Ce n'est pas la parole de Ken ou de Matthieu ou d'Amédée, c'est la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison que cette parole nous est précieuse. Alors, oui, vas-y.
Oui, si je peux faire un petit commentaire.
Oui.
Rapidement, on dit que, par exemple, le texte qu'on entend d'étudier, le verset 2, par exemple, sur lequel tu as étudié, moi, en tant que langue, on sait si je vais prêcher tout à l'heure, tu as parlé d'étymologie.
Oui.
D'un mot. Moi, donc, en tant que prof de français, par exemple, je parlerai grâce, l'étymologie du mot miséricorde et. Bon, on entend, je ne sais pas combien de personnes il y a qui savent que miséricorde, c'est le sentiment par lequel la misère de quelqu'un touche le cœur.
Oui.
Donc, notre misère en tant qu'être humain, misère touche le cœur de. Et cette misère-là suscite la faveur qui est grâce. Et Dieu nous a croire, il nous permet de croire et d'être sauvé. Donc, si j'entre dans la langue de la langue pour que mes auditeurs comprennent mieux. La parole de Dieu, je pense que c'est ce que certains appellent docteur, mais en réalité, leur connaissance, bah, aussi qui savent l'hébreu, bah, et toi, quand tu prêches parfois, c'est vrai que tu passes par voici ce que bon. Donc, il y a des gens qui aiment aller à l'heure, mais toi, pour ne pas perdre rapidement, en hébreu, voici ce que ça veut dire. Donc, c'est certains docteurs, c'est vrai, ils aiment. Le verbiage, donc ils aiment parler pour se faire entendre, mais il y en a qui utilisent cette connaissance que le Seigneur leur a donnée, permettre aux gens simples comme moi qui mieux comprendre peut-être
l'apôtre
Paul, par exemple, quand il allait parler au Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est un expert de légaliste, une assemblée législative. Le langage qu'il utilise pour s'adresser au Sanhédrin, c'est un langage. Parfois, il parle de sa figamali. Ce n'est pas pour sa connaissance ou de sa formation, mais pour dire qu'il a les connaissances qu'il faut. Il ne se glorifie pas de cette connaissance. C'est un docteur se glorifie de la connaissance. Paul, il fait référence à sa formation chez Gamaliel pour dire qu'il a les connaissances pour s'adresser au Sanhédrin, par exemple. Donc, je pense que si les gens utilisent leur formation pour éclairage à la parole de Dieu, qui est la puissance qui sauve, pas ce qu'ils ajoutent, la parole puissance qui sauve, mais ils éclairent un peu leur auditoire sur le sens des signes, des mots. C'est juste pour dire qu'on ne doit pas... rejeter tous les docteurs, etc. Mais c'est vrai qu'on doit se consacrer à la simplicité du Seigneur, du message du Christ. Mais parfois, ça aide d'écouter ces docteurs. Et le Seigneur, par son esprit qui nous donne, nous permet de discerner, comme tu l'as dit, discerner ce qui nous permet de croître en Christ et ce qu'il faut rejeter.
Ouais. Non, je ne suis pas contre... la connaissance. Et je dois dire que les termes que le Seigneur utilisait afin à diriger Paul d'écrire, même l'apôtre Pierre, parlant de ses écrits, il a dit que dans lesquels il y a des choses difficiles à comprendre. Les meilleurs linguistes du jour étaient les pharisiens et les docteurs. Ils connaissaient bien l'hébreu, mais ils n'ont pas connu Christ. Et c'est là la difficulté. Même les dictionnaires bibliques et autres que... Moi-même, j'ai fait des études en hébreu, mais le grec, mais... Les outils que j'utilise parfois pour aller en profondeur dans les mots sont là par des linguistes que le Seigneur a donné cette connaissance de pouvoir connaître les profondeurs, mais... Mon point, c'est simplement que on ne peut pas se fier à eux simplement parce qu'ils portent le nom docteur. Pour moi, il y a beaucoup qui poursuivent des gens parce que c'est un docteur. Même les gens me demandent ça. Jusqu'à quel niveau j'ai pu atteindre dans mes études. Mais je leur dis que tout cela, le Seigneur a renversé. Parce que j'étais à la poursuite du doctorat moi-même. Mais par la grâce de Dieu, il a arrêté tout cela. Et ce que je prêche aujourd'hui, c'est comme Paul dit, je n'ai pas appris de l'homme, mais de Dieu. Mais pour cela, je suis d'accord, on ne peut pas se méfier du profondeur des mots et de leur sens, parce que c'est par là que beaucoup sont aussi... les gens les dirigent ailleurs. Comme tu disais, le mot miséricorde, même dans notre texte ici, la miséricorde, c'est ce que Dieu, il n'agit pas de la manière qu'il pourrait dans sa justice. Il ne nous condamne pas. Ça, c'est la miséricorde. La grâce, c'est de nous donner ce que nous ne méritons pas. Il nous donne le salut en Christ. Il nous déclare justifiés par le sang de Christ. Alors, chaque mot a sa raison. Il n'y a aucun mot dans les Écritures qui est là simplement pour remplir le paragraphe, etc. C'est chaque mot. Et je dirais aussi dans l'original, parce que il y a beaucoup de versions aujourd'hui. Donc, même dans ça, nous devons toujours retourner à l'original. Je ne sais pas en français, peut-être Mathieu, tu pourras me dire ça un peu plus, mais je sais en anglais, il y a le Strong's Concordance, et même à l'internet, tu peux étudier n'importe quel mot dans l'original. Est-ce qu'ils ont ça en français aussi? L'étymologie?
L'étymologie, oui, il y a une concordance, mais c'est pas aussi poussé que...
C'est pas comme Strong's.
Voilà.
Je sais qu'à l'époque, il y avait un projet de faire le Strong's en français, mais je ne sais pas.
Ouais, non, c'est que comme le frère le disait tout à l'heure, français, il n'y a pas beaucoup.
Oui, le marché n'est pas là.
Ouais. En tout cas, le français est très pauvre quand même. La, ouais, la traduction de Louis II, qui apparemment est la meilleure traduction française, c'est,
ouais,
parfois quand on lit les psaumes, y a des... ça ne rend pas le sens. Par exemple, quand le psaume 57, quand, quand l'apôtre Paul dit My heart is fixed, oh Lord, my heart is fixed. En français, on dit mon cœur est affermi, mon cœur est affermi. En fait, on ne sent pas vraiment la part is fixed.
Fixed, c'est ça.
Voilà, la, la force du texte. Mon cœur, Seigneur, est déterminé. Mon cœur s'attache à toi. Il n'y a pas cette force-là, affermi, par exemple. Mm. Donc c'est ça, quoi. Le français n'est pas aussi riche que. Bon, évidemment, l'anglais n'est pas aussi riche que le grec ou pas aussi.
Ouais.
Les
autres, ouais.
Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, mais okay. Parce que c'est par l'esprit qui donne, enfin, je regrette. Mais pour faire suite à ce que disait Ken, et plus j'écoute l'évangile, je me rends compte que ce n'est pas vraiment la doctrine. Ce n'est pas une question de doctrine. C'est une question de donner toute la gloire à Christ.
Mmh, ouais.
Et c'est ça, la véritable doctrine. Il n'y en a pas d'autre. Le reste, l'analyse intellectuelle que font tous ces docteurs ne conduisent pas à Christ, conduisent à la perdition, le chemin qui mène à la perdition. Et plus on écoute l'évangile de la grâce, plus on comprend que c'est du blasphème. Donc, tout ce qui ne donne pas entièrement, uniquement la gloire à Christ, est le chemin de perdition, est le blasphème. Et je pense que par la grâce de Dieu, Dieu a protégé les différentes versions. Il a utilisé même des non-croyants pour traduire la Bible. Mais c'est par l'esprit que nous pouvons comprendre,
c'est ça,
davantage.
C'est ça. Non, c'est un bon point. Et c'est effectivement ce que Christ a dit dans Jean 5, 39. Il disait aux pharisiens, encore, les meilleurs linguistes du jour étaient les pharisiens. Il y en a qui... les pasteurs qui me disent que c'est leur connaissance de l'hébreu, etc., qui les permet de pouvoir mieux prêcher. Mais je connais certains qui n'ont même pas cette connaissance. Et comme Daniel vient de dire, mais c'est l'esprit qui prend les simples paroles de la parole de Dieu. Une bonne traduction, bien vrai. C'est pourquoi je recommande le King James en anglais, parce que c'est basé sur des documents qui sont bien fondés, qui ont été acceptés durant les époques, comme étant l'original. Mais Christ a dit ici, en Jean 5, 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Et en fin de compte, même si c'est un soi-disant docteur qui est en train de nous donner l'étymologie d'un mot, si dans cette explication, ça ne nous dirige pas à Christ, ou bien au Christ des Écritures, tout ce qu'il dit, ce n'est que des sens naturels et non pas de Dieu. Donc, je crois que le Seigneur nous donne ce discernement. Enfin.
En fait, c'est bon, pas pour discuter. Le mot doctrine, c'est quoi? C'est dogme, c'est les fondements de l'enseignement du Seigneur, les fondements, la théorie, les fondements sur lesquels les enseignements sont basés. Donc, je suis d'accord, la doctrine c'est Christ, puisque tout se résume, tout revient à Christ. Mais il faut bien qu'on parle de justification, il faut qu'on parle de sanctification, qu'on parle de prédestination, d'élection, tout ça c'est des doctrines. C'est important, ou bien c'est... quand on prêche, on ne dit pas Christ sauve, le salut. La prédication de l'évangile ne se résume pas à prêcher le salut. Par grâce, on est sauvé, il y a, ça c'est informé par d'autres choses. Le salut par grâce, c'est la justification. Le salut par grâce, c'est la sanctification. Le salut par grâce, les attributs. Et tout ça, donc, ça enrichit l'enseignement du salut. Donc, quand je prends un message de Ken, dans le message, même dans la simplicité de la prédication, on retrouve toutes les doctrines du salut dans cette prédication. C'est vrai que pasteur Ken simplifie la chose pour que on ne perde pas le temps dans le vocabulaire ou dans le langage sophistiqué, mais on retrouve tous les points de doctrine dans cette prédication. Certaines personnes pensent qu'il faut en parler en longueur, en long et en large, mais ça ne diminue pas la puissance de la parole quand on parle de cette façon ou quand on simplifie comme pasteur Ken le fait. Donc je pense qu'on ne doit pas avoir ce qu'on appelle doctrine. Et puis on ne peut pas simplifier le mot doctrine d'une certaine façon. Je pense que c'est ce que le Seigneur nous donne. On dit que le Seigneur détermine toutes choses, ordonne toutes choses. Et je pense que ce que le Seigneur nous donne qui permet de glorifier Christ,
c'est un point bien souligné, mais la doctrine est vraie. Et le mot signifie enseignement. Donc, l'enseignement de Christ. Et je crois que où l'erreur entre, c'est quand on commence à prendre les doctrines des hommes ou bien les explications des hommes. Et on commence à citer des hommes, qui que ce soit, en dehors de la parole. C'est pourquoi quand tu m'écoute prêcher, je ne cite pas souvent un homme, parce que je veux que ceux qui m'écoutent regardent dans la Bible et ils font sortir leur doctrine, si vous voulez, de la Bible. Il y a une théologie systématique, ils appellent ça. Bon, quand tu dis systématique, cela veut dire que c'est l'homme qui a pris les doctrines pour les organiser d'une manière et on commence à étudier ça doctrine par doctrine. Mon point, c'est que ce n'est pas de cette manière que la Bible a été écrite, que nous devons prendre la parole et déduire de la parole et l'esprit, c'est comme Daniel disait, c'est l'esprit toujours qui doit révéler cette doctrine au cœur, mais c'est à travers la parole et non pas une étude systématique, parce que ce n'est pas de cette manière que la Bible est organisée. La Bible est livre par livre, mais c'est une bibliothèque de 66 livres. Alors, j'entends des gens qui quand ils m'entendent prêcher, la première chose qu'ils me demandent, c'est est-ce que tu as une fois lu, par exemple, Charles Hodge. Bon, qui est Charles Hodge? Je connais qui est Charles Hodge, mais ce n'est pas la parole de Charles Hodge qui sauve. C'est un commentaire que cet homme calviniste a donné à l'époque. Il a une doctrine systématique qu'il a écrite à l'époque. Mais comme je dis souvent, la Bible a beaucoup de lumière à éclairer les commentaires des hommes plutôt que des commentaires des hommes qui doivent éclairer la parole. Alors, c'est de cette manière que le Seigneur m'a donné cette conviction depuis que Christ a été révélé à moi. Tu sais, j'étais à Guéot, assis là, en train de bâtir un ministère, de construire, de travailler, quand le Seigneur m'a séparé, m'a mis à part, m'a montré que réellement tout ce que j'avais appris jusque-là ne m'a pas conduit à une connaissance de Christ. Et c'est là que j'ai commencé à lire la Bible du début jusqu'à la fin, me demandant comment je pouvais arriver même à une maîtrise de théologie, avoir appris le grec pendant 5 ans, l'hébreu pendant 3 ans et demi d'études et ne jamais avoir eu un professeur qui me conduisait à Christ dans le salut et comme le sujet de la Bible. Alors, si j'ai cette conviction aujourd'hui, c'est à cause de cette intervention de Dieu dans ma vie qui m'a montré qu'on peut avoir toute la connaissance et même définir les mots de la manière à expliquer ces mots, mais ne pas avoir Christ. Et je pense que c'est ça que Paul est en train de dire à Timothée. C'est la base, c'est le fondement, cette introduction, cette salutation que nous avons ici. Les termes bibliques sont légitimes. Alors c'est à partir de là que nous devons faire sortir la vraie doctrine.
Le Seigneur t'a conduit ici cette fois, et c'est grâce à ça, ayant appris vrai l'hébreu, le grec que tu as appris ces années, c'était pas une perte de temps, n'est-ce pas?
Ah oui,
non. T'a guidé.
C'est ça.
Et ça te permet aujourd'hui de mieux comprendre quand tu lis, de mieux comprendre que moi, par exemple, j'ai jamais appris le grec ou l'hébreu.
Ouais.
Et tu m'expliques en anglais ce que, en plus de tes connaissances hébraïques et grecques, et pour que je puisse mieux comprendre.
Ouais. Non, c'est sûr. Je crois que nous sommes sur la même page. Bon, je dois pouvoir me préparer pour l'émission en anglais qui va se passer ici dans quelques minutes, mais c'est un début et je remercie le Seigneur pour cette première étude et aussi je suis content que chacun se sent libre de partager ses pensées au fur et à mesure. C'est bon, c'est une étude, ce n'est pas une prédication, et que le Saint lui-même continue à nous former par sa grâce.
Pasteur, j'ai un truc que je voulais ajouter.
Oui.
En ce qui concerne l'évangile, comme l'a dit tout à l'heure Frère Mathieu, moi je pense que l'évangile, il faut qu'on fasse la distinction entre le vrai et le faux. Parce que déjà moi, quelques vingtaines d'années, tu nous enseignais le même évangile. Et l'évangile que tu nous enseignais à l'époque, tu disais toujours qu'il n'y a pas un autre évangile qui est mieux que ce que je vous enseigne. Alors, comme nous les hommes, souvent on est souvent tenté à être Jules, orgueilleux, comme je vous le disais, qu'il y a une prédiction. J'ai même abandonné l'évangile qui a été à Gagnon, qui n'apprête pas au départ, les États-Unis, tout ça. Et dans le monde où j'étais maintenant, vrai maintenant, effectivement, il n'y a pas un autre évangile souverain de la grâce de Dieu. C'est le seul vrai évangile. Il n'y en a pas. Parce que la remarque que j'ai faite, que ce soit, les gens, ils sont toujours tentés par dire que, comme ils sont intellectuels, voilà le problème, ils sont intellectuels, ils prêchent souvent sur des sujets qui sont creux, sans intérêt, banal, tels que l'intellectualisme, les rites, les cérémonies et les traditions. Et moi, je l'ai déjà illustré en Côte d'Ivoire, avant que quelqu'un vienne nous prêcher à Gagnoa, de Gayou à Gagnoa. Moi, j'étais déjà dans une secte qu'on appelait le christianisme céleste, où les gens étaient des accoutrements tout blancs, et on ne portait pas de chaussures. Et on essayait d'éteindre l'Ancien Testament avec le tabernacle, tout ça, le vieux saint, le vieux très saint. Et quand nous, à Gagnon, on a compris dans le livre des Deutéronome, surtout le livre des juges, Mais il y a des gens aussi en France qui prêchent aussi sur la prédestination, qui prêchent aussi sur la justification. Mais quand on regarde, ces mêmes messages semblent être la vérité. Mathieu, fais faire attention, parce que quand tu développais tout à l'heure, que tu as eu d'autres prédicateurs, qui semble prêcher, même chose comme Pierre, il n'y a pas tout à fait de différence. Et il prêche la justification, il prêche la grâce, tout ça, mais en même temps qu'il bascule encore dans ce qu'on appelle les 10 commandements et autres. Or, celui qui est véritablement l'objet de la grâce, et les 10 commandements, quand on parle de la loi, un enfant de Dieu ne peut pas se permettre de vivre comme il vivait dans le monde. Alors que quand les hommes religieux aujourd'hui, ils nous donnent toute une liste de restrictions que nous, on doit respecter, alors qu'on ne peut pas respecter. Ouais. Alors que maintenant, quand tu es en Jésus-Christ, il y a des gens qui sont dans le monde, qui vivent bien, qui sont pas, ils font pas les, ils font même pas des choses que, ils font même pas comme, ils vivent comme un enfant de Dieu doit vivre. Or, en réalité, ils ne sont pas en Christ. Or, nous, la grâce qu'on a, on est en Jésus-Christ. Donc, si des gens qui sont dans le monde, qui vivent comme les enfants de Dieu, alors que correctement, comme nous sommes en Jésus-Christ. Et là, moi, c'est ce que j'ai compris, que la grâce que Dieu m'a faite ne me permet pas de vivre dans le péché et de me vivre encore dans l'ignorance. Alors, ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il y a des gens, ils comptent sur les niveaux intellectuels. Et ils se disent que comme ils sont docteurs, ou alors ils sont bien instruits, ils vont rentrer dans des sujets et ils vont passer tout le temps là-dessus. Alors, donc, si on s'éloigne de la simplicité de l'évangile, donc si quelqu'un va dans la simplicité, moi, je pense que c'est salutaire et c'est bien. Parce que mieux vaut que nous restions dans l'évangile vrai que d'aller loin. Alors, pour parler même de l'église baptiste, parce qu'il y a en France ici, il y a des multitudes de l'église baptiste qui disent baptiste, tout ça. C'est eux, en France, qui disent, dès qu'on commence à prêcher, et au lieu de dire, comme lequel lui a dit ici, est-ce que tu es vraiment légitime? On veut savoir quelle est ta confession de foi, en quoi tu as cru. C'est eux qui disent, est-ce que tu es déclaré? Ah, lui, là, son évangile, là, c'est l'évangile de Calvin. Tu es Calvin. Ou alors, celui-là, il prêche le libre arbitre des gens, les pasteurs, je suis assis dans les lieux de culte. Mais au fur et à mesure qu'on écoute leur message, il y a un pasteur qui m'a dit que c'est à nous de prendre notre décision pour venir à Christ. Sinon, c'est comme si Jésus nous manipulait. Tu vois, Mathieu? Ce genre d'évangile, c'est très dangereux. Alors, si tu veux dire que c'est à nous de prendre notre décision pour venir à Christ, sinon, c'est comme si Jésus nous manipulait. Alors, moi, je lui ai dit, mais le sacrifice, le sacrifice de Christ est là, mais c'est à toi de prendre, sinon, c'est comme si. Or, c'est Dieu lui-même qui nous donne la foi, notre cœur, qui nous fait une œuvre de grâce dans notre cœur pour venir à Jésus. De nous-mêmes, tu vois, qu'elle nous a annoncé l'évangile depuis longtemps. Et quand j'étais dans le monde, j'ai vu effectivement que c'est vrai, que c'est quand lorsque Dieu fait une œuvre de grâce dans le cœur d'un homme pécheur, c'est là qu'il vient à Christ. Sinon, de nous, qui intéresse les hommes, c'est qui intéresse les hommes pécheurs, c'est de vivre dans la débauche, c'est de vivre dans le péché. Ce qui nous appartient, c'est le. Alors, si on voit quelqu'un qui est repenti et qui vient à Christ, c'est que Dieu l'a tout. Alors, donc, moi, c'est ce que je voulais expliquer, c'est ce que vraiment je voulais dire. Mathieu, c'est une bénédiction que Dieu fait en ce qu'elle aujourd'hui, ce site-là, pour qu'on puisse vraiment bénéficier, pour que ce soit une bénédiction. Sinon, le côté intellectuel pour expliquer les choses. Voilà, c'est le mot que je voulais dire. Il ne faut pas faire dire que ce que les autres disent aussi, ce n'est pas aussi mauvais. Voilà où on s'égare. On dit oui, ce que ce n'est pas aussi mauvais, on peut aussi prendre ce qui est bon. Non, il ne suffit pas de dire certaines vérités au sujet de Jésus, mais c'est de dire la vérité, c'est-à-dire qu'une seule vérité. Et Daniel a si bien dit que c'est Jésus, un évangile qui est centré sur Jésus, et Jésus crucifié seul. C'est ce qu'il faut, suivre.
Amen.
Il y a beaucoup de choses qui sont dites en France. Et nous, on n'expérimentait pas ces choses quand on était en Afrique. Mais c'est en France même, c'est en France surtout. Mais aux États-Unis, c'est encore pire, selon les deux. Mais la fausse religion, elle est partout. Partout. Et pour finir, il y a on étudiait dans les juges. Il y a certains groupes des enfants d'Israël qui sont entrés en rébellion contre leurs frères. Mais comme je n'ai pas bien le test devant moi, on a pris pas le temps. Et ils voulaient se dissimuler avec les enfants de Dieu. Et quand ils arrivent, les autres disaient, bon, il faut dire Shibboleth.
Voilà.
Il faut dire Shibboleth. Et il vient et dit, mais Shibboleth. Ouais. Et il ne pouvait pas prononcer correctement le mot Shibboleth. Il dit Shibboleth. Et les gars les trouvaient et les égorgeaient. Alors, dans ce point de vue que faisons attention, une fausse, une petite erreur au sujet de Jésus-Christ, c'est fini, tu es condamné. Alors, donc, on doit faire attention, c'est ce qu'on nous enseigne. Moi, je l'ai déjà depuis des années, et que je l'ai dit à mon épouse, à mes enfants, il n'y a pas un autre évangile. Et là, il s'est strict là-dessus. Voilà. Parce que ma femme aussi, elle était dans la baptiste œuvre mission. Elle a aussi, au début, quand on attendait, il va discuter. Elle a discuté avec moi aujourd'hui. Elle-même, elle a expérimenté, elle s'est dit, vraiment, c'est vrai. Il n'y a pas un autre. Il n'y en a pas. Donc, je pense que Dieu fera sa grâce, nous enseigner davantage, va susciter des prédicateurs. Des moyens que Dieu nous donne, des moyens logistiques qu'on a aujourd'hui, Skype, Facebook, tout ça, je pense qu'on doit beaucoup utiliser ça pour pouvoir s'en.
C'est bien.
Moi, voilà ce que je voulais dire.
C'est bien. Oui, c'est un début, et certainement, tout ce que je veux, c'est que tout ce que nous étudions, ça soit à la lumière de la parole, comme Paul a dit aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 5, il dit, verset 20, « Ne méprisez pas les prophéties ». Les prophéties signifient de prendre la parole et de l'annoncer. Alors, que ça soit à la radio, que ça soit dans des rencontres personnelles, ou parfois on rentre dans une assemblée où on voit la Bible ouverte, on peut toujours se dire, bon, au moins la parole est annoncée. Mais, Paul dit, verset 21, « Examinez toutes choses ». Retenez ce qui est bon. Il n'y a jamais dans une doctrine ce qui est bon si toute la gloire ne retentit pas à Christ et Christ seul. Parce que, comme Christ lui-même a dit, il n'y a qu'un seul qui est bon, c'est Dieu. Alors quand le maître est venu lui dire bon maître, c'est là, ce n'est pas qu'il rejetait ce titre, mais c'était un homme qui rejetait Christ tout en l'appelant bon maître. Non, tout ce que Christ est à la gloire de son Père, et tout ce que nous sommes, c'est par cette œuvre de Christ. On peut même prêcher la grâce sans prêcher Christ. Tel était mon cas. J'ai appris ces termes, justification, rédemption, grâce, sanctification. J'ai appris tous ces termes dans mes études théologiques, mais dans aucun cas j'ai connu Christ, jusqu'à ce que l'Esprit a ouvert mon cœur, et c'est comme Matthieu dit, maintenant, comme l'apôtre Paul, il était une linguiste par excellence, mais c'est quand Christ lui a été révélé qui il s'est servi de ses études et sa connaissance pour expliquer davantage les Écritures et la doctrine de Christ. Et puis, verset 22, dans le même contexte, il dit « Abstenez-vous de toute espèce de mal. » Toute espèce de mal, ce n'est pas simplement le mal moral, c'est spirituel. Si on ne voit pas quelqu'un en train de nous diriger vers Christ à sa seule gloire, c'est un mal. Et c'est pas là que nous arrivons à nous séparer. Et enfin, c'est un début. Le Seigneur, par sa grâce, continuera à nous apprendre sa parole à travers ses études. Inviter des amis qui peuvent être intéressés. Il n'y a pas de limite en ceux qui peuvent quand même écouter. Même s'ils ne sont pas sur Skype, tout cela est en train d'être diffusé à l'Internet. Et nous allons faire une copie, enregistrer même ces discussions et causeries autour de la parole. Et peut-être qu'il y a d'autres qui peuvent en bénéficier plus tard. Alors, on va terminer par la prière. Et puis, je dois devoir changer en anglais pour ceux de Malawi. Frère Amédée, veux-tu bien nous diriger dans la prière pour en terminer aujourd'hui?
Oui, Seigneur, Père éternel, nous sommes reconnaissants pour ce que tu fais. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous te remercions pour cette nouvelle expérience avec le pasteur Ken. Nous remercions aussi Frère Daniel, Mabadou, Mathieu, de se joindre à méditer ta parole. Profite-en. Nous ne voudrons pas que ce soit actuellement, mais Seigneur, souveraine grâce, touche le bûcher d'être instruit spirituel. Nous sommes reconnaissants de Jésus. Amen.
Amen. Alors, Dieu voulant, la semaine prochaine, à la même heure, et que le Seigneur vous bénisse. Restons en contact. Enfin, vous avez le moyen de continuer à rester en contact, mais Dieu voulant, on se retrouvera encore la semaine prochaine. Merci bien.
Merci. Salutations à nos frères et sœurs du Malawi.
Pardon?
Merci. Salutations à nos frères et sœurs du Malawi.
D'accord. Très bien. Oui. D'accord, merci.
Merci.
Bonne journée.
Bonne journée à vous. Merci.